Chapitre 7 Touristes indiscrets. Gourdebec-Neveu, dans sa tourelle au-dessus de l'étage du greffier, connut cette même nuit les inquiétudes des consciences troublées. L'aventure de la chèvre lui donnait du souci. Ainsi qu'on l'avait vu d'en bas, l'une des deux chèvres que Mademoiselle Brigitte conduisait au pâturage dans les tuiles piquées de fleurettes et d'herbes comme une prairie, s'était tout d'un coup de tête débarrassée de sa gardienne et ensuite lancée à l'aventure sur les pentes des combles, heureuse de se sentir libre et de se donner l'illusion de montagne à escalader. Il avait fallu courir après et la chèvre endiablée s'était amusée à sauter, à bondir de toit en toit, de terrasse en terrasse, se campant sur les balustrades ou sur la crête des lucarnes, à la profonde stupéfaction de quelques flissemugois qui, par hasard, levaient alors le nez pour consulter l'horloge du beffroi. Finalement, mais non sans peine et sans escalades aventureuses, Gourdebec l'avait rattrapé. Quand il entendit le greffier heurter à la porte de la plateforme, il se garda bien de répondre et fit signe à ses enfants de ne point souffler mot. Il se coucha tourmenté. Qu'allait-on penser de ceci en bas? Au milieu de la nuit, il se releva pour aller voir si la cabane aux chèvres était bien fermée. Et comme il traversait son carré de salade à la clarté d'une lune superbe, une chose l'arrêta subitement. Le petit ruisseau, qui serpentait si agréablement sur la plateforme, était presque à sec. Mais que voulait dire cela? Il ne restait qu'un mince filet d'eau, coulant rapidement et s'amincissant vite. Gourdebec comprit très vite. Dans un angle du beffroi, le long de la balustrade, un petit trou se voyait entre deux dalles de la plateforme. L'eau filtrait par là, se perdant dans l'épaisseur de la muraille. Mauvaise affaire! Bien vite, Gourdebec établit un barrage, se réservant de cimenter le trou dès le lendemain matin, comme il avait déjà fait quand il avait cru apercevoir des fuites dans le sol. Cet accident, néanmoins, l'inquiétait fort. C'était juste au-dessus du logement du greffier Jobillou, un monsieur fort grincheux de caractère et qui se mêlait de tout. Aussi, quand le matin arriva, Gourdebec, ayant eu le temps d'y réfléchir, s'enfuit dans son jardin, du côté d'un étroit couloir transformé en planches de melon et de potiron. Là, sur un lit de paille, à côté de châssis dus à l'industrie de Gourdebec, qui les avait fabriqués avec de vieilles fenêtres à vitraux armoriés, trouvées dans les greniers de l'hôtel de ville, là mûrissait un magnifique potiron jaune, l'orgueil de Gourdebec et l'espoir de nombreuses soupes pour les dîners d'automne. Ce potiron était une merveille, il était gros, lisse, doré comme un glorieux soleil. Égoïste comme tous les chefs-d'œuvre de la nature, il avait absorbé à lui tout seul la substance de ses frères, restés des avortons à peine de la taille d'une coloquinte. Gourdebec, avec chagrin mais sans hésiter, prit son couteau et trancha le fil des jours du majestueux potiron. Il le contempla un instant, couché dans la paille, puis le prit dans ses bras et le rapporta au logis. Il pesait un bon poids, ma foi, et si on avait pu lui accorder encore 15 jours, nul doute qu'il eût gagné encore quelques livres. « Isabelle, dit-il à sa fille aînée, prends-moi ce potiron !» Isabelle reçut le monstre dans ses bras et faillit s'écrouler avec lui. « Tu vas descendre chez monsieur le greffier Jabillou. Tu sonneras et tu diras à monsieur Jabillou, à madame, si c'est elle que tu vois, que je prie monsieur Jabillou de me faire la gracieuseté, d'avoir la bonté de vouloir bien accepter ce petit légume. Tu as compris ? Répète un peu.
Oui, papa.
Isabelle posa son légume obèse à terre afin de pouvoir parler.
Papa, prie monsieur le greffier d'être assez gracieux pour lui faire l'amabilité d'avoir la bonté de...
C'est bien ça, va, et salue aussi en entrant et en sortant. Attends, je vais te descendre ton petit rond jusqu'à la porte. Tu sonneras quand je serai remonté. Isabelle descendit la première, Gurdebec la suette à pas de loup, emportant le superbe produit de son jardin. Quand on fut à la porte du greffier, il campa le potiron dans les bras de sa fille, sonna et remonta bien vite. Ce fut M. Jabiou qui vint ouvrir. Il avait son chapeau et se préparait à monter chez Gurdebec pour son enquête.
« Monsieur le greffier, balbutia la petite intimidée, c'est papa qui a la gracieuseté de vous envoyer ça. Il a dit que c'était pour vous. »
Hein, plaît-il? Fit Monsieur Jabiou étonné. D'où vient-il ce potiron?
Mais il vient de notre jardin là-haut, c'est notre plus beau, répondit la naïve Isabelle. Mais c'est pour vous, papa vous le donne.
Saperlotte, 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 s'écria Monsieur Jabiou. Cet accès de munificence de votre papa me semble louche. Il y a du louche, oh, il y a du louche.
Ah, ah, de votre jardin, mais c'est très bien. On fait pousser des cucurbitacées sur ma tête et on me noie dans mon lit, c'est parfait.
Savez-vous comment j'appelle ce cadeau de Monsieur Gurdebec, moi, mademoiselle?
Un potiron? Fit Isabelle pliant sous le poids.
Non, mademoiselle, j'appelle ça une éhontée tentative de corruption de fonctionnaire. Allez, allez, nous allons en avertir monsieur le bourgmestre. Pour le coup, Isabelle effrayée laissa échapper le potiron qui roula sur les marches de l'escalier en hélice et disparut avec un bruit terrible, bondissant, bombe énorme, de tournant en tournant avec une vitesse accélérée. On entendit un cri terrible dans les profondeurs de l'escalier, puis encore des coups sourds et finalement quelque chose comme une explosion tout en bas du monument. Isabelle, épouvantée, regrimpa vite à la plateforme où son père attendait d'impatience de connaître l'accueil fait à son cadeau, pendant que M. Jabiou se précipitait dans l'escalier. C'était son employé qui avait poussé le cri. Comme il montait à son bureau, le potiron, arrivant sur lui, avait failli l'écrabouiller. Il eut le temps, par bonheur, de se jeter dans l'embrasure d'une fenêtre. Le projectile, lui enlevant son chapeau et son parapluie, poursuivant sa course, roula, se cognant avec un bruit terrible à la muraille, rebondit encore, et s'en fût écrasé sur la place de l'hôtel de ville. Mais cette affaire devient grave, de plus en plus grave. Nous allons voir ce que va dire monsieur le bourgmestre, s'écria monsieur Jabiou. Et sans prendre le temps de donner des explications au groupe de flissemugois étonnés, réunis autour de ce potiron tombé de l'hôtel de ville, monsieur Jabiou, à grandes enjambées, se dirigea vers la demeure du bourgmestre. Gurdebec neveu, du haut de son beffroi, le vit traverser la place et devina bien où s'en allait si vite le vindicatif greffier. Le pauvre Gurdebec s'assit tout penaud dans un créneau et se mit à se gratter le front silencieusement.
« Quoi donc encore, Narcisse ?» fit Madame Gardebec, s'interrompant de laver la vaisselle du déjeuner à la fenêtre de la tourelle. « Tu me fais tourner les sangs. Qu'est-ce qu'il y a que tu te tracasses, sais-tu? Eh, il y a que nous allons avoir des ennuis, je le sens, » répondit Gardebec. « Des ennuis avec le greffier. Oh, il est vraiment pas commode.
Voilà-t-il va faire tant d'histoires pour un peu d'eau qui aura filtré dans ses appartements. Le vilain homme. Oh, ça marchait trop bien ici. C'est que les petits pois ordonnent. Tu peux toujours en faire une cueillette en attendant.
Mais tu devrais guetter Monsieur Jabiou et aller lui faire des excuses en mettant tout sur le compte de la pluie.
Mais ça prendra pas. Voilà 3 semaines qu'on se plaint de la sécheresse.
Ben, dis-lui que c'est notre baril de bière qui a fui.
Ben, je vais réfléchir au moyen de le calmer. Mais il était dit que la malchance s'acharnerait sur le pauvre Burdebec. Personne ne montait jamais au beffroi. Jamais aucun touriste parmi les rares voyageurs de passage à Flissenbürg ne pensait à faire l'ascension de la grosse tour pour admirer le paysage, d'ailleurs assez plat, des alentours de la ville. Ce jour-là, justement, ce qui n'était pas arrivé depuis peut-être une douzaine d'années, 2 Anglais et 1 Anglaise, munis d'un guide du voyageur en Brabant et d'une lorgnette, s'engagèrent dans l'escalier du beffroi, sans demander la main d'autorisation, escaladèrent les innombrables marches et débouchèrent tout à coup sur les 10 heures du matin par la porte de la plateforme dans le domaine aérien de Gurdebeck-Neveu. Ayant jugé inutile de s'absorber plus longtemps en pénible réflexion, celui-ci, les manches retroussées et la pipe à la bouche, rafraîchissait son carré de laitue avec quelques arrosoirs d'eau. Au bruit, il se retourna brusquement, croyant à l'arrivée de M. Jabiou. « Oh ! » fit-il en posant son arrosoir à la vue des intrus. « Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces particuliers-là ? » « Oh ! » firent en même temps les 3 Anglais, stupéfaits de ce tableau champêtre, à tant de pieds au-dessus du sol. « Oh ! Oh, cette petite bête d'Isabelle qui n'a pas refermé la porte !» se dit Gurdebeck, « on n'est pas chez soi !» Les Anglais étaient restés à la porte de l'escalier, regardant avec ahurissement autour d'eux l'encadrement de pots et de caisses à fleurs au pied de la tourelle, et le chèvrefeuille grimpant aux fenêtres, et les carrés de légumes, et surtout le petit ruisseau serpentant au milieu de la plateforme. « Qu'est-ce que désirent ces messieurs ?» fit Gurdebeck en s'avançant. Les Anglais continuaient à regarder sans changer de place. L'un d'eux ouvrit son guide du voyageur en Brabant et feuilleta vivement les pages. Il n'y trouva naturellement aucun détail sur cet extraordinaire jardin du beffroi et referma le volume avec dépit. Sans répondre à Gurdebeck, les 3 voyageurs s'avancèrent et firent le tour de la plateforme en poussant à chaque phrase des exclamations. « Oh, dit, comment appelez-vous ça ?» dit la dame à Gurdebeck qui suivait le groupe. « Des cocoricots ?»« Non, des poules. Des poules, des comment appelez-vous des coins, des canards. Et des comment appelez-vous des oies, fit Gurdebeck. Mais pourrais-je savoir ?» « Oh !» reprirent les Anglais de plus en plus stupéfaits. « Des... comment appelez-vous ?»« Des chèvres. »« Mais c'est un petit ferme ici, sur cet vieux monument. »« Very curious, extraordinary. »« Prenez des notes, Harry, pendant que Milady fera un croquis sur son album de cette petite jardin suspendu, avec son rivière, son basse-cour. » Elle fait bien la fermière avec beaucoup de petits enfants. Mais enfin, reprit Gurdebeck, pourrait-on savoir ce que désirent ces messieurs? Rien. Voir cet antique bâtiment, les curiosités, le paysage. Madame Gurdebeck et les enfants regardaient par les fenêtres très stupéfaits de la visite. Les Anglais continuaient à marcher, sans beaucoup de précautions, autour de la tourelle, parmi les salades, les tomates et les petits pois, regardant tout et prenant des notes.
« Mais ils sont vraiment pas gênés !» murmura Madame Gourdebec. « S'introduire ainsi chez le monde ?»«
Et pourquoi papa ne met-il pas à la porte ?» demandèrent les petites Gourdebec.
Comme Gourdebec, bien qu'il n'osât rien dire, suivait les touristes pas à pas et les gênait dans leur exploration, l'un d'eux prit un air mécontent.
Cette, comment appelez-vous, cette beffroi est un monument public, n'est-ce pas? Alors laissez-nous promener dedans, cet monument public, je vous prie.
Madame la fermière, dit la voyageuse, pourrait-on avoir une tasse de lait? Je serais très charmé de boire une tasse de lait sur cette beffroi.
Les trois touristes éclatèrent de rire. Madame Gourdebec, indignée, ferma sa fenêtre et Gourdebec, découragé, prit le parti de rentrer dans la tourelle, laissant les intrus libres de leurs mouvements, et ceux-ci prirent leur temps. Après avoir fort bien examiné, ils descendirent derrière le beffroi sur les étroites terrasses des combles de l'hôtel de ville et poursuivirent leur exploration à travers les plantations pour lesquelles Gourdebec avait utilisé si bien tous les coins. Et tout à coup, on entendit des éclats de voix, des cris de colère, et Gourdebec, sorti au bruit de sa tourelle, aperçut les deux messieurs qui revenaient rapidement en soutenant la voyageuse.
« Mais seigneur, c'est un sort! On n'est plus jamais tranquille maintenant, mais qu'est-ce qu'ils ont donc avec leurs cris d'oiseaux effarouchés ?»«
Je vais me plaindre à l'administration de cette cité !» s'écria le premier touriste. « Formellement, je vais me plaindre. Je suis très furieux. Mélodie est très furieuse. »«
Mais qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Gourdebec.
« Ma Mélodie est tombée là-bas, derrière la balustrade. » Il y avait encore une petite rivière qu'on ne voyait pas. Milady a mis le pied dedans.
C'est trop de petites rivières sur cette ridicule monument. C'est une stupidité. Je vais me plaindre.
En effet, la voyageuse était toute mouillée et le bas de sa robe ruisselait d'eau. Elle était éclaboussée jusqu'à la figure. Son grand chapeau avait aussi beaucoup souffert. Le deuxième touriste le brandissait furieusement. Gourdebec, effaré de cette nouvelle mésaventure, se précipita en se confondant en excuses. Sa femme apporta une chaise pour faire asseoir la dame, mais les voyageurs ne voulurent rien entendre, repoussant ses excuses et ses bons offices. Ils l'accablèrent en gesticulant de violentes sottises, anglaises heureusement, et se dirigèrent vers l'escalier sans regarder s'ils n'écrasaient point au passage quelques innocentes laitues. La famille Gourdebec, réunie à l'orifice de l'escalier, les entendit crier et menacer tout le long de la descente.
« C'est abominable, very abominable! Nous allons voir les autorités de cette ville !» Écrire à l'ambassade, stupide monument, stupide !»